1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Les chroniqueurs sont tous là malgré la pluie, je vous les présente, Céline, Sophia, Daniel, Laure et Jean-Luc, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va commencer ce soir avec vous, Sophia et Céline, pour nous parler de l'association dont vous faites partie, Clitorise-moi, Céline.
Oui, effectivement, on va vous présenter l'association Clitorise-moi, ses activités, son combat, ses projets. Et on va aussi beaucoup, beaucoup vous parler de clitoris, son histoire, son utilité, son anatomie et même en chanson.
On va découvrir de nombreuses choses ce soir, ça je le sens. Dans La Rose des Vents, nous aurons une nouvelle édition de Parle-moi Suisse. Bonsoir Laure.
Salut Fabien. Oui, alors aujourd'hui c'est Francis, un réceptionniste de 54 ans, qui nous fera visiter sa Suisse et toujours à travers les cinq sens.
Voilà, donc rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Et puis, Daniel, on va parler ensemble dans La Rose des Vents, une nouvelle fois de la Turquie, ce soir avec un aspect traditionnel musical.
Entre autres, on vous invite à faire un voyage sonore pour vous permettre de découvrir en fait de la musique au travers de quatre grandes régions, voire plus, un vrai cocktail de couleurs régionales et de couleurs polyphoniques, si on peut dire.
Voilà. Enfin, on passera à la culture avec Cultiver Lausanne, Jean-Luc, et un reportage sur le documentaire Carnet d'Ukraine de Stéphane Venanzi.
Oui, alors c'est Stéphane Venanzi hein, qui collabore avec nous depuis peu, qui a fait qui a rencontré donc Emmanuel Graff pour parler de certains aspects de son film. On l'avait déjà eu, Emmanuel Graff, sur nos ondes.
Et
là, c'est un peu plus précis, des questions intéressantes que Stéphane lui a posées.
Rendez-vous donc dans une quarantaine de minutes. Enfin, ce soir, une nouvelle chronique cataacoustique de Diane Danielle Surie. Elle est intitulée « Fun, fun, les petites marionnettes ». L'association Clitorise-moi, Parle-moi Suisse et la culture musicale de la Turquie. Carnet d'Ukraine et la chronique cataacoustique. C'est le programme de ce mardi 9 février sur Radio Django. Débute une grande soirée ensemble, puisque de 19h à 20h, ce sera une émission spéciale intitulée Horizon Sénégal. Ce sera tout à l'heure, juste après ce grand direct. Deux émissions donc à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Ce soir dans Vivre à Lausanne, un sujet en dessous de la ceinture, mais ça fait aussi partie des activités à Lausanne. On accueille ce soir l'association Clitorise-moi, découlant de l'association Féminista, qui nous proposera ici un sujet une fois par mois. Bonsoir Sophia et Céline.
Bonsoir.
Alors je l'ai dit, donc votre association s'appelle Clitorise-moi. Sophia, explique-nous comment est née cette association.
En fait, l'histoire de Clitorise-moi, c'est un peu l'histoire d'un enfant hors mariage. Elle a commencé à vivre avant que ses mamans, entre guillemets, se réunissent formellement comme association. On s'est réunis lors d'un événement qu'on a créé tout spécialement pour la fête du slip en 2015.
C'est-à-dire ?
À la base, on était tout issus de l'association féministe Féminista, et puis on a opéré cette première journée sous la bannière du collectif pour la liberté de l'avortement, de la contraception et des sexualités, le CLACS, auquel Féminista est affilié. En voyant tout le travail que ça pouvait représenter, on a décidé de créer notre propre association qui ne se dévouerait qu'à ça.
Donc, au clitoris, hein ?
Oui, voilà, au clitoris, mais pas seulement. On voulait vraiment œuvrer pour la promotion de la santé sexuelle au sens large, telle qu'elle est définie par l'OMS, et puis surtout, surtout, nous focaliser sur la notion de plaisir qui est pour nous fondamentale.
Alors, quand tu dis que cela représentait beaucoup de travail, de quel travail est-ce qu'on parle ?
Alors, quand il s'agit de créer une association, il faut d'abord rédiger les statuts de l'association. C'est à partir de ce moment-là qu'on a eu des discussions de fond sur les tenants et les aboutissants de notre démarche. On a dû se fixer un but, des moyens d'y parvenir, on a dû se fixer des objectifs et puis planifier la mise en œuvre de notre plan angélique.
Alors, en quoi consiste alors justement ce plan ?
Ça a été difficile de définir au début, hein, quand on a rédigé les statuts. On a passé deux journées entières à le faire, afin qu'il corresponde à la demande qu'on pensait déceler chez la population féminine, et puis pour qu'il soit réaliste. Il a même été question de voyage spatial et de conquête de l'univers, mais on a décidé de remettre ça plus tard.
De voyage spatial, explique-nous.
Oui, en fait, on pensait que c'était tellement indispensable de pouvoir créer notre message à l'entier de l'univers qu'on voulait se lancer dans la conquête spatiale, mais on a décidé de commencer plus modestement à un niveau local.
Et quel message est-ce que l'association veut véhiculer exactement ?
Nous, on voudrait vraiment que les femmes se rendent compte du trésor qui siège entre leurs jambes, qu'elles puissent en quelque sorte l'apprivoiser. Et puis, pour apprivoiser son clitoris, il faut le connaître, se rendre compte de ses mécanismes qui ont mené à sa méconnaissance. Et puis, comme dans la logique des cours d'histoire, on doit pouvoir expliquer et intégrer ces événements pour ne plus laisser les mêmes erreurs se reproduire à l'avenir.
Bon, alors, quelle histoire a ce fameux clito ? C'est si compliqué que ça ?
C'est effectivement une très longue histoire dont je vais confier le récit à Céline, une des 5 fondatrices de Clitoris Moi. On citera aussi Lauriane, Anna et puis Claire. Donc elle va nous raconter maintenant, Céline, comment on mène notre plan à exécution.
Bon, alors Céline, c'est si compliqué tout ça ?
Effectivement, c'est pas tout simple. Le clitoris, il faut savoir qu'il a toujours été malmené ou diabolisé au long de l'histoire médicale. Il y a bien sûr eu Freud, qui fait une séparation du plaisir clitoridien et vaginal, alors qu'on sait maintenant qu'en fait c'est exactement le même. Il décrivait l'orgasme par simulation clitoridienne comme enfantin, une vraie femme ne devant jouir que par pénétration vaginale.
Et la médecine ne s'y est pas intéressée du tout ?
Eh bien non. Les recherches médicales, elles aussi ont délaissé cet organe. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate s'était déjà intéressé à l'organe sexuel féminin. Il avait notamment découvert que le clitoris était l'organe du plaisir féminin, mais également la sécrétion féminine, la cyprine, qu'il a naturellement comparée au sperme masculin et donc associée de facto à la reproduction. Il était ainsi notoire que les femmes devaient absolument jouir lors des rapports sexuels pour pouvoir enfanter. Mais malheureusement pour toutes les femmes, au XIXe siècle, un scientifique décrypta les mécanismes de reproduction et ainsi l'inutilité du clitoris dans ce domaine.
Alors le clitoris n'a aucune autre fonction que d'amener de la jouissance.
C'est tout à fait ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a donc créé des livres d'anatomie. Il y réapparaîtra au XXe siècle, mais dans des représentations inexactes qui sont encore en circulation maintenant, dans certaines littératures ou dans les manuels d'éducation sexuelle.
Bon, mais alors, quand est-ce qu'est arrivée la première vraie définition ?
Eh bien, pour ça, il a fallu attendre 1998. Pour que soit publiée la première description exacte du clitoris, qui avait été réalisée à partir de dissections anatomiques et qui nous a permis de découvrir la vraie forme du clitoris. Parce que le clitoris, en effet, c'est pas juste un bouton. Le bouton qu'on stimule, c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, le clitoris, il continue à l'intérieur du corps avec un coude, 2 jambes qui se prolongent et auxquelles sont attachées des bulbes qui viennent entourer le vagin. En gros, pour avoir une petite image, ça ressemble un peu à un canard.
Ah oui.
Un canard qui fait 8 à 12 cm de long et surtout qui contient 8000 terminaisons nerveuses.
Ah, quand même !
Oui, 8000 terminaisons nerveuses, ça en fait donc l'organe le plus sensible du corps humain, bien plus que le pénis. Je vous encourage donc vivement à taper clitoris sur vos moteurs de recherche pour voir à quoi il ressemble vraiment.
Bon, alors à votre Google, mais peut-être pas avec vos enfants à côté. En tout cas, pas tout de suite. Si vous cherchez d'autres mots que clito à taper sur votre moteur de recherche, en voici quelques-uns proposés par Colette Renard dans cette chanson « Les nuits d'une demoiselle ».
Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule. Je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le montvelu. Je me fais briquer le casse-noisette, Je me fais m'amourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Colette Renard, les nuits d'une demoiselle, je crois que tout est dit. Revenons-en à notre association. Sophia, concrètement, qu'est-ce que vous faites à Clitoris-moi ?
Eh bien, à Clitoris-moi, par exemple, notre première action, ça a été d'aller au marché avec un clitoris géant qu'on a fabriqué, qui faisait à peu près 1,80 m de haut, pour interpeller les passants en leur demandant s'ils savaient ce que c'était.
Et alors ?
Ben, on a été assez surprise du nombre de gens, et surtout de femmes qui connaissaient même pas l'existence du mot
mais
clitoris.
Non. C'est dingue, ça. Vous avez été bien reçus ?
Bah oui, on a été bien reçus, on a eu que des réactions positives, à vrai dire.
Est-ce que vous avez tiré des constats de cette expérience ?
Le constat principal, c'était que le clito était vraiment trop méconnu et qu'il fallait qu'on y remédie.
Alors, vous avez fait quoi ?
C'est ce qui nous a amené à faire beaucoup de pubs pour notre intervention à la fête du slip en 2015. On y a diffusé le film « Le clitoris, ce cher inconnu », dont on a actualisé les propos pendant une conférence qui s'est tenue juste après. Et puis, après tout ça, on a mené des femmes qui s'étaient inscrites à notre tout premier atelier.
Et ça s'est bien passé ?
C'était vraiment super. Les femmes nous ont toutes donné des feedbacks positifs et puis elles voulaient nous voir la semaine suivante.
Ah oui, ça c'est bon signe. Comment est-ce que vous avez réagi à cette demande ?
Ouais, alors on n'a malheureusement pas pu donner d'atelier la semaine suivante, ni dans un laps de temps très proche du premier atelier. Mais on a décidé d'employer ce succès relatif pour soutenir des causes qui nous tenaient à cœur.
Comme quoi ?
On a par exemple participé à la marche des salopes, la Slugtalk, qui se tient à Genève, à laquelle on a emmené notre clito géant qu'on avait tout spécialement habillé.
Amené en balade, oui.
On a uni nos forces à cette noble cause qu'est la lutte contre la culture du viol, en portant le message qui est le suivant, c'est le plaisir féminin ne peut découler que du consentement.
Et puis, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous allez faire alors ? Qu'est-ce que vous en avez fait, pardon ?
On a continué à organiser des ateliers à Lausanne, le dernier ayant eu lieu pas plus tard que dimanche dernier.
Ah oui, c'est tout récent. Et puis alors, qu'est-ce que vous y faites à ces ateliers ?
On passe en revue l'anatomie du clitoris, un peu de son histoire, et puis surtout, on laisse parler les participantes. Et ça, c'est vraiment la partie centrale. On a pris le parti de créer des ateliers non mixtes pour favoriser vraiment le sentiment de sécurité des femmes et puis le partage de connaissances entre pairs. On vise vraiment à co-construire un discours sain autour du plaisir féminin et à normaliser les pratiques, les comportements de certaines femmes par le partage d'expériences.
Alors donc, vous ne faites que parler ?
Alors non, on ne fait pas que de parler, on propose aussi à celles qui en ont envie de procéder à une exploration de leur vulve et de leur clitoris afin qu'elles fassent connaissance avec ce bel objet ou alors d'améliorer leur connaissance.
Bon, mais je m'imagine un tout petit peu, ça doit quand même être un peu gênant pour certaines.
C'est pas forcément gênant parce qu'on ne force personne donc à le faire, c'est que celles qui ont envie qui le font et puis les autres qui n'en ont pas envie peuvent passer le reste du temps à discuter. Le but c'est vraiment que tout le monde soit à l'aise et puis on s'efforce aussi de fournir un environnement le plus safe possible et puis on a du matériel pour préserver l'intimité de chacune.
Et comment vous en assurez ?
On a l'habitude de s'assurer du confort de chacune régulièrement au cours de l'atelier et puis à la fin de l'atelier. Puis on a d'ailleurs quelques morceaux choisis à vous faire écouter.
Et on les écoute tout de suite.
C'était beaucoup plus riche que j'espérais, dans le sens où il y a eu vraiment plein d'échanges, autant personnels qu'un peu généraux sur la société, sur comment on perçoit la sexualité des femmes.
Et j'en ressors très heureuse parce que justement c'est bien de décloisonner les générations, les milieux. J'ai appris plein de trucs sans apprendre vraiment quelque chose de précis. J'ai l'impression de m'être nourrie des témoignages de tout le monde.
D'avoir appris plusieurs choses au niveau anatomique, par exemple. C'était intéressant aussi de parler à un moment, j'étais pas très à l'aise au début. Après, d'un coup, je sais pas, ça s'est débloqué. J'ai l'impression d'être avec des potes, en fait.
À vrai dire, j'avais besoin de trouver justement un endroit où parler de tous ces sujets-là, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent. J'en parle que dans mes cercles d'amis, mais du coup, j'avais besoin de trouver un endroit comme ça.
J'étais sûre d'avoir beaucoup de connaissances sur moi et sur mon corps. Je pense toujours que c'est le cas, mais il y a des choses en plus que j'ai comprises et que je suis contente d'avoir eu l'idée de comprendre.
Pour moi, j'ai trouvé cet atelier extrêmement libérateur. On n'a jamais parlé de sexualité autant dans les détails qu'ici, même pas de près. Et du coup, c'est hyper chouette de pouvoir en parler comme ça, de briser des tabous. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point on est différentes entre femmes, à des points que j'imaginais pas du tout, et qu'on abordait le plaisir de manière vraiment très différente.
Et on rappelle que ces ateliers sont exclusivement réservés aux femmes.
Oui, c'était ça, c'est exact, aux femmes cis et trans.
Finalement, qu'est-ce que vous pensez apporter à toutes ces femmes qui viennent vous voir ?
Ce qu'on veut démontrer, en fait, avec notre association, c'est que c'est vraiment important d'apprendre la tolérance envers les différentes formes de sexualité, comment avoir une sexualité sûre et saine, comment savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et surtout connaître son propre corps, car c'est le seul moyen de permettre aux femmes et aux hommes d'avoir une sexualité conforme à ses envies et jouissive. Ceci est encore plus vrai pour les femmes, car on a bien vu, comme on l'a expliqué, que le corps féminin et son appareil est encore très méconnu de beaucoup d'entre nous toutes. Le savoir a toujours été synonyme d'émancipation et donc de liberté. Tout individu doit avoir la liberté de choisir sa sexualité et d'en jouir pleinement, mais le seul moyen pour cela est de connaître son corps pour se sentir libre de le prendre en main.
Donc si on comprend bien votre conclusion, il est nécessaire de bien connaître son corps pour avoir une sexualité conforme à ses envies et jouissive.
Oui, c'est exactement ça, vous avez tout compris.
Clitorisme, l'association qui nous dévoile tout sur le clitoris, son existence, son utilisation et ses bienfaits. Merci beaucoup Sophia et merci beaucoup Céline. Chronique à retrouver sur notre site Django.fm.
Radio Django, le grand direct,
18-19h. Oh, but my answer, hey, to all that you mister, is I won't spread the news that if it feels as good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. And he told me that I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when our talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish you was in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Do abuse me, you get me in a crowd of high class people, and then you act real rude to me. But oh, baby, when you love me, I can't get enough. And I wanna spread the news
feels isn't good getting used. Oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up.
Use Me, c'est interprété par Al Jarreau sur Radio Django.
Radio Django, la rose des vents.
Il est 18h20 précise. Bonsoir Laure, qui as-tu interrogé cette semaine pour ta chronique Parle-moi Suisse.
Oui, salut Fabien. Alors cette semaine, je me suis tournée vers Francis qui travaille comme réceptionniste au même endroit que moi. Pour le présenter en quelques mots, il a 54 ans, il est célibataire et puis c'est quelqu'un qui est assez curieux de tout.
Alors Francis est né à Berne et s'est installé en Suisse romande à 7 ans. Est-ce que ça va changer sa vision du pays ?
Finalement, très peu. En discutant avec lui, je me suis rendu compte que c'était surtout les voyages qu'il a fait quand il était plus jeune et les différentes rencontres avec des étrangers ici qui ont modelé sa vision de la Suisse. Comme à chaque fois, pour débuter la chronique, je lui ai demandé d'évoquer une image du pays et je te laisse écouter sa réponse. Il est parti directement en forêt.
Comme c'est un petit pays, ce qui est assez marrant, c'est que tu peux avoir des paysages très différents, relativement proches les uns des autres. Tu peux avoir la montagne avec les forêts, les plaines et les lacs. Tout ça sur une petite surface, parce que c'est un peu une caractéristique de notre pays. Et puis surtout la verdure aussi. Y a pas de, c'est pas désertique. Y a, au niveau de la végétation, c'est pas la végétation asiatique, mais je veux dire, c'est quand même abondant. La flore, la faune, pour moi, c'est un beau pays du point de vue de la nature, déjà.
Tu devais penser à un goût suisse.
Alors, le goût, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, pour moi, ce serait plutôt lié alors, à mon enfance. Par exemple, l'œuf aux maltines, parce que quand on était à la maison au déjeuner, c'était pratiquement tout le temps d'œuf aux maltines.
Céréales à boire, œuf aux maltines.
C'est sûr. Ou des produits qu'on consommait comme fréquemment, quoi, les fromages que tu trouvais à la Migros, c'était quand même assez typiquement suisse à l'époque. Aujourd'hui, ça change parce que maintenant, tu as des produits de tous les pays qui arrivent. D'ailleurs, l'œuf aux maltines, c'est même plus suisse parce que ça a été racheté. Quoi.
Et aujourd'hui, encore le matin, tu prends de l'œuf aux maltines ?
Ouais, non, je suis resté en forme à ce niveau-là. Quoi. J'aime bien cette boisson. Ouais. De temps en temps, je fais une infidélité avec Suchard, mais ça reste dans le domaine helvétique. Quoi.
Et ça reste le chocolat chaud.
Eh oui. Ouais. Ouais, y en a pas mal qui se payent ma tête parce qu'elle trouve ça ridicule, mais c'est resté. Quoi.
T'as réfléchi déjà au toucher suisse ?
Ouais, ça aussi, c'est un peu délicat parce que en Suisse, on n'est pas forcément très chaleureux. Quoi. On est un peu distant, un peu réservé. Donc pour moi, c'est plutôt le côté un peu tiède. Quoi. C'est pas comme par exemple les latinos espagnols, italiens, portugais, où ça
se touche quoi.
Ah ouais, c'est très. Attends, c'est pas non plus les anglais aristocratiques qui sont très distants quoi. C'est une espèce d'intermédiaire. Mais là aussi, ça évolue beaucoup parce que on est quand même pas mal brassé. Je veux dire, on a pas mal de latinos dans notre pays, donc on évolue aussi à leur contact. On modifie nos habitudes.
Pour ce qui est de Louis.
Alors là, c'est un peu particulier parce que bon, j'avais grandi les premières années en Suisse alémanique. Après, je me suis retrouvé en Suisse romande et j'ai beaucoup regardé la télévision pour essayer d'apprendre le français, mais c'était souvent en fait la télévision française. Et ce qui était marrant, c'était le décalage entre la façon dont mes condisciples me parlaient le français et ce que j'entendais à la télévision. Quoi. C'était vraiment. On aurait l'impression que la même langue parlait par deux peuples différents.
Quand tu es arrivé en Suisse romande.
Ouais. Ouais, c'était parce que notamment les Vaudois, ils ont quand même un débit, une intonation qui est complètement différente de ce que tu peux entendre à la télévision française. Donc ça, ouais, ça m'avait fait marrer.
T'as un exemple ?
Tu veux dire
soit de mots, soit de programmes que tu regardais tout le temps ?
Bah sûr, toi à l'époque, il y avait surtout les films dont les dialogues étaient faits par Michel Audiard, quoi. Donc c'était la génération des années 60, c'était vraiment à parler, c'était rigolo, c'était expressif, c'était imagé.
Tu récapitules, tu garantis, t'es un peu chouette. Primo, un homme de ma classe n'a jamais eu besoin de 3 heures pour déboucler un coiffio. Deuxio, vu le monstre auquel je m'attaque, 3000 degrés, c'est à peine tiède.
Et nous, en Suisse romande, on était un peu en retard, si tu veux. On avait l'impression d'être un peu lent à la détente.
Le vaudois, la chose est certaine, n'aime pas les mots trop précis.
Et quand un ami le questionne sur sa santé, s'il est content, il ne répond pas. Et les bonnes, il répond « Ça va, jolie humeur !»
L'odorat. On n'a pas encore parlé de l'odorat.
C'est ça, ouais, c'est juste... Alors là, l'odeur particulière dans le pays, franchement, ça me paraît un peu... Pour moi, c'est lié à ce moment-là à l'alimentation, quoi. Mm-hmm. Moi, je reviendrai...
Mais quel fromage, alors ?
Bah, il y en a plusieurs que j'aime bien, quoi. Moi, justement, ceux qui sont la Panzel, la Mental, le Tilsitre, tout ça, Bon, après, je peux pas dire que j'ai pas goûté d'autres fromages d'autres pays, mais disons que dans mon enfance, c'était quand même assez typique, quoi. Aussi chez mes grands-parents.
Et tu les reconnais à l'odeur ?
Ouais, bon, la Panzel, quand même, la Mental et la Tilsitre, c'est quand même assez marqué, quoi. Ils sont assez différents, ouais. Si tu vas en Hollande, par exemple, ou si tu vas en Espagne, ou si tu vas en Italie, le fromage, ce sera pas la même chose, quoi. Là, c'est différent, quoi. Alors, c'est vrai que c'est quand on part à l'étranger qu'on revient, qu'on se rend compte à quel point, en fait, on est lié à ce qu'on a connu, à ce qu'on a aimé. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à ce qui vient d'ailleurs, mais simplement, on est marqué. C'est comme les panneaux de circulation routière, d'ailleurs. Quand je reviens à Zan, je me sens vraiment chez moi, quoi. Je veux dire, je me reconnais, quoi. Quand je pars dans d'autres pays, je suis toujours là, je suis perturbé, quoi. Je suis perdu.
Pour tes rivières, tes clairières, je reviens t'aimer comme avant. J'étais parti loin du pays, à la recherche du meilleur. Tu es bien là.
Alain Morisot, à la recherche du meilleur. Merci Laure pour cette chronique Parle-moi Suisse. On te retrouve le mois prochain.
Django, la rose des vents.
La Rose des Vents, justement, vous propose ce soir un nouveau voyage sonore en Turquie. Après avoir découvert Toab et les mille et une saveurs, nous vous entraînons ce soir au pays des mille et une voix. Est-ce à dire, Daniel, que la musique est aussi un incontournable dans la culture turque ?
En effet, la musique fait partie du patrimoine culturel de la Turquie et reflète l'extrême diversité de cette république. Trois périodes marqueraient l'histoire de la musique turque pré-islamique, celle post-islamique et la musique turque post-république dite contemporaine. Certaines fouilles archéologiques faites en Asie centrale montrent déjà l'existence d'une culture musicale déjà bien développée par les Huns et les Yougours. Grande variété d'instruments et large répertoire. Depuis l'époque de Seljoukide, des tribus nomades venues d'Asie centrale, jusqu'à nos jours, cette musique ne cesse d'évoluer.
Alors qu'est-ce qui fait, au fond, la richesse de cette musique ?
Des styles de musique très éclectiques et différents d'une région à l'autre. Chaque région a son propre style de musique.
Bon, eh bien, on va en parler ce soir avec Ozan. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue une nouvelle fois sur les ondes de Radio Django. Vous revenez ce soir, donc, justement, pas pour nous parler de délices, comme c'était le cas la semaine dernière, mais de musique, parce que vous êtes grand mélomane, professeur de danse traditionnelle turque. Vous teniez à nous faire découvrir la Turquie au prisme de ses sonorités. Vous êtes d'origine turque, on l'a dit, issu de la deuxième génération, et vous avez grandi en Suisse. Alors, dans quel contexte s'est développée votre sensibilité pour la musique turque ?
Alors, ça vient de la famille tout d'abord, effectivement, comme je suis né en Suisse et grandi. Ma famille était très musicien, mélomane, comme vous dites. Et dès jeune âge, on était toujours en famille, à beaucoup écouter de la musique. Je me suis inscrit à des cours de danse, donc l'un ne va pas sans l'autre. Et qui m'a permis de filer en aiguille, de m'introduire dans une groupe de folklorique turc. Et depuis, j'ai découvert la musique traditionnelle turque et toutes les couleurs qui va avec. Et c'était un déclic pour moi. Et depuis, j'aime bien diversifier la musique turque et écouter dans toutes ses coutures.
Ozan, qu'est-ce qui caractérise la musique turque ?
Alors, les musiques en Turquie comprennent divers éléments issus de l'ensemble de la culture musicale populaire, d'Asie mineure aux empires ottomans, de la musique perse aux influences balkaniques, mais aussi un grand héritage de la musique de l'Empire byzantin. Elle emprunte plus récemment différents genres de musique, de genres musicaux, de la musique occidentale contemporaine, et la diversité musicale et des ethnies vivant et ayant vécu à travers l'histoire et encore actuellement dans ce pays est assez impressionnante.
Alors Ozane, pour nous montrer la richesse et la diversité de cette musique, vous avez choisi de nous faire découvrir quatre artistes originaires des quatre coins de la Turquie. Nous allons commencer par un chanteur engagé, originaire de la mer Noire.
Gezen kartalım kırıldı mı kanatların? Can mı çıktı boğazından? Niye düştün düz tarlaya? Tut elimden kalk gidelim, oy gidelim Zigana'ya. Tut elimden kalk gidelim, oy gidelim Zigana'ya. Nanina dido, dido anam dido, dido babam dido, dido nanina. Nanina dido, dido anam dido, dido babam dido, dido nanina.
Alors Ozane, une musique qui nous transporte, un brin nostalgique. Qui est Volkan Konak?
Alors, Volkan Konak est un artiste de variété turque de la région de la mer Noire, né en 1967 près de Machka. Il entre en 1983 au Conservatoire National de Musique à Istanbul. Et en 88, il sort du conservatoire et s'inscrit à la maîtrise de sciences sociales de l'Université technique d'Istanbul. Et il étudie la musique populaire. Il est très sympathique, il dégage une attitude bienveillante à l'égard de son public, esprit poète, et ses chansons parfois tristes et pleines d'émotions.
Comme on le souligne.
Voilà, emporte les gens.
Mais en quoi est-il un chanteur engagé?
Alors pendant 2 ans, il s'est attaché à montrer l'impact de la catastrophe de Tchernobyl en Turquie, et plus particulièrement dans la région de la mer Noire, de sa région. Son père est décédé d'un cancer. Depuis, Volkan Konak a été très affecté par la mort de son père et a composé en son hommage Djera Pacha. Depuis des années, il attire l'attention sur l'augmentation du nombre de cancers dans la région de la mer Noire et lutte pour la création d'un hôpital spécialisé dans la recherche contre le cancer.
Donc c'est un homme particulièrement engagé. Mais pourquoi dit-on en Turquie que son style de musique est unique ?
Alors, ses compositions sont teintées de motifs ethniques qui constituent son style unique. Et entre ses chansons, début, milieu, vers la fin, il a toujours de la poésie et grand poète, très sensible, donc qui touche un grand public.
Nous allons maintenant écouter un extrait de Döşküm Direk.
Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorsun kolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorum kolları.
Ah, ça donne envie de danser, n'est-ce pas, Ozan?
Oui, tout à fait.
Qui est ce chanteur originaire d'Ankara?
Alors, Josh Kundirek est un jeune chanteur dans les trentaines d'années. Il a une longue route d'expérience musicale. Il s'est fait connaître avec cette chanson qui est très connue, Ankara'nın Bağları, qui vient de la région d'Ankara.
Et qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît, en français?
Alors, c'est... comment dire le bağları, c'est je trouve pas
difficile
le mot.
De traduire.
Effectivement, c'est
une métaphore peut-être pour imaginer.
Non, c'est comment dire, un grand jardin, le grand jardin d'Ankara. Voilà, c'est plus ou moins ça, on va dire. Voilà.
Qu'est-ce qui caractérise la musique d'Ankara?
Alors, le caractéristique de la musique d'Ankara, c'est une musique qui est très qui bouge beaucoup. On danse beaucoup dans les mariages c'est une musique traditionnelle qui vient d'Anatolie, d'Ankara spécifiquement. Et c'est toujours dans le même esprit de musique.
En parlant de musique traditionnelle, quels sont les instruments principaux que l'on peut retrouver justement dans cette région?
Oui, parce qu'on a cette petite mélodie hein, qui revient, oui. Qui donne justement ce rythme et cette envie
tout à
de danser.
Fait.
Est-ce que c'est le fameux saz?
Alors, saz, bağlama, effectivement, qui ressemble, qui est une sorte de guitare qui donne un son très particulier. Et on utilise beaucoup sur l'Anatolie et l'Est du pays.
Depuis 30 ans, Ankara fête le Festival international de musique d'Ankara. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est un festival dédié à la musique classique ou plutôt aux musiques traditionnelles?
Alors, c'est un festival international qui est dédié sur la musique traditionnelle anatolienne, avec des poésies chantées énormément, portées par des bardes musiciens appelés aşık, comportent une forte composante religieuse, spirituelle et onirique.
Très bien. Nous allons partir de l'Anatolie à l'ouest pour découvrir d'autres couleurs musicales.
On va même sur la mer Égée, hein, si on veut être précis.
Tout à fait.
Halilim, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da Halilim, aman başım selamet. Bir tezde yanısına varmadan Halilim, aman koptu kıyamet. Bir tezde yanısına varmadan Halilim, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim çağırmış, Allah'ıma emanet.
Étonnante cette Turquie. Ozan, où sommes-nous exactement?
Alors là, nous sommes du côté de la mer Égée. Nous avons écouté un morceau qui s'appelle Çökertme de Turgay Baş Yayla, qui n'est pas très connu, mais c'est une musique de la mer Égée, de la musique traditionnelle et folklorique, qui est également une chanson et une danse folklorique.
Pour qu'on comprenne bien, finalement, on pourrait imaginer que du côté d'Ankara et du côté de la mer Égée, c'est plutôt des musiques traditionnelles et folkloriques.
Plutôt, effectivement.
Et quand on parle de la musique tzigane, c'est dans quelle région? En Turquie?
Alors, la musique tzigane, c'est plutôt à la...
Vers la mer Noire?
Vers la... Non. Anatolie, plutôt, ça change, c'est très varié.
Et voilà. Il semblerait que dans certains cafés, justement, les gens sont très friands de cette musique.
Effectivement.
Et nous parlions aussi d'arabesque.
Alors l'arabesque est une musique populaire qui est écoutée par une grande majorité en Turquie, autant à Istanbul que la mer Égée, que côté l'est du pays, voilà.
Et parlant d'Istanbul, quelles sont ses influences musicales?
Alors, les influences sont le fait que ça soit multiethnique. Donc, on regroupe à Istanbul, nous avons toutes les sortes de musique.
C'est très cosmopolite.
Très cosmopolite, effectivement. Autant de la musique traditionnelle, folklorique, arabesque, moderne.
On parlerait de rock même.
Même rock, tout à fait.
Est-il vrai qu'un grand moustachu, roi du rock psychédélique, a marqué la scène istanbouloise?
Tout à fait. C'est M. Barış Manço qui est décédé actuellement, qui était né en 1943. Il a fait son premier concert en 1959, et très autodidacte, il jouait de la guitare et du piano. Dans les années 63-64, il a écrit plusieurs morceaux, entre autres pour Henri Salvador, c'était un grand...
Il a écrit des textes pour
Salvador. Tout à fait, effectivement, et dans les années 70-80, il a beaucoup composé, plus de 200 morceaux. Est décédé dans les années 1999 à l'âge de 56 ans.
Et on oublie de dire qu'il était très apprécié en Turquie. Énormément. Pardon, au Japon, excusez-moi.
Autant en Turquie qu'en Europe et beaucoup au Japon, toujours actuellement.
C'est rigolo hein, qu'il ait du succès quasiment de l'autre côté de la planète.
Alors effectivement, c'est le personnage, c'est un tout. Il n'y avait pas que ses chansons, c'était son style, sa façon d'être. Donc il est très apprécié par les friands de Barış Manço
et de rock. Et de allez rock. L'écouter, ça voilà. Vaut la peine.
On vous encourage. Et ben voilà, on arrive gentiment au terme de ce voyage en Turquie côté musical. Et on voit qu'il y a chaque couleur qui donne une région. C'est un cocktail polyphonique, des sonorités alliant tradition et modernité. Et puis l'envie de danser.
Effectivement, j'y vais de ce pas.
Eh bien alors, allez-y, on vous retient pas. Merci beaucoup, Ozan, d'être venu
nous
parler
de
musique aujourd'hui.
Soirée.
Et puis merci à Daniel pour la préparation de ce sujet. Ozan, puisque vous êtes toujours là, donnez-nous juste le titre avec la bonne prononciation, le titre qu'on écoute en ce moment.
Yaz Dostum.
Alors, Yaz Dostum, ça veut dire « écris mon ami ».
Voilà, c'est parfait. Comme ça, on peut l'écouter dans de meilleures conditions.
Adam denir mi? Yaz dostum, selam almayana yiğit denir mi? Yaz dostum, altı üstü beş metrelik bez için. Yaz dostum, boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?
Radio Django, culture.
Voilà, on attaque la dernière rubrique de cette soirée pour le grand direct. Ce sera avec toi, Jean-Luc. Nous parlons de Carnet d'Ukraine.
Oui, en fait, c'est surtout Stéphane Melanzi qui a été rencontré Emmanuel Graff, qui est un documentariste franco-suisse, qui a commis plusieurs documentaires qui relatent la situation des ouvriers en Lorraine hein, suite à la désindustrialisation, que c'est compliqué à dire.
Oui.
C'est dans les années 90. Et il vient de réaliser donc, ce film, Carnet ukrainien, qui est un film assez particulier parce qu'il y a des éclairages, quatre éclairages différents originaux. En fait, il crée des doubles relations, des choses en écho. Et Stéphane Menanzi l'a rencontré pour certains, voilà, pour approfondir un petit peu ce comment il a voulu dire et ce qu'il a voulu dire dans son film.
Eh bien voilà, on écoute Stéphane Menanzi.
En 2014, le monde entier découvrait l'existence de l'Ukraine, existence d'ailleurs vite menacée par la suite. Or, si mon fils a un papa français, lui est né en Suisse et sa maman est ukrainienne. Ce film, Carnet ukrainien, est donc celui d'un triple regard. De la Lorraine à l'Ukraine, en passant par le lac Léman. quatre chapitres, quatre situations, quatre regards croisés possibles, où l'Ukraine est chaque fois au centre.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Stéphane.
Tu es déjà venu l'année dernière au micro de Radio Django nous parler de ce documentaire sur lequel tu travaillais encore à l'époque. Il est à présent disponible en DVD. On précisera plus tard de quelle manière les gens qui n'ont toujours pas eu la chance de le visionner peuvent se le procurer. J'aimerais donc ce soir aborder un peu plus spécifiquement avec toi certains aspects, à commencer par sa construction en quatre parties de longueur variable.
La durée de ces quatre chapitres est assez inégale, ça peut paraître un peu surprenant, c'est simplement dû au fait que le quatrième chapitre, donc celui le plus important au niveau même de la quantité des sous-thèmes, le Maïdan, les famines staliniennes, l'exil des jeunes en Ukraine et le rapport avec l'Europe occidentale, c'était un chapitre avec des gros thèmes, alors que les trois premiers chapitres sont des chapitres plutôt monothèmes, monothématiques, où il y a une fois une grosse affaire dans chacun. Donc, effectivement, le quatrième et dernier, il fait la moitié du film, quoi. Il fait 40 minutes.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, à quelque part, dans le dernier chapitre, quand tu parles de l'Holodomor, ça rejoint aussi la thématique du premier chapitre avec le charnier au camp de Bansaint-Jean.
Ce charnier de Bansaint-Jean à côté de Metz, donc en Lorraine, en Moselle, c'est un charnier très très peu connu, qui est pourtant le plus gros charnier de France, puisqu'il y a 22 000 corps qui sont sous terre. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on en parle, c'est que c'est une affaire qui est connue depuis relativement récemment. Et il rejoint, comme tu le dis, les charniers staliniens de 1932-33, qui sont des choses assez terribles, hein, puisqu'il y a eu entre 5 et 7 millions de morts. Les historiens se battent un peu pour les chiffres, c'est peu important. Famine organisée par le régime stalinien pour éliminer ce qu'ils appelaient les bourgeois paysans ukrainiens. C'était en fait surtout pour éliminer toute trace d'ukrainité et de particularité ukrainienne. Un génocide qu'on connaît peu en Europe occidentale parce que tout simplement l'information a été bloquée jusque dans les années 90. Et puis après les années 90, il y a encore une grosse partie des archives qui sont à Moscou. On ne connaît donc que les archives qui ont pu rester en Ukraine.
Est-ce que tu connaissais déjà donc le site consacré à l'Holodomor ?
Alors pour moi, l'Holodomor, c'était une énorme surprise. Donc j'ai 50 ans, j'ai découvert l'existence d'un fait historique pareil sur le tard, hein, à 46-47 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Ukraine. J'avais entendu parler de ça, mais comme énormément d'Européens, j'en savais rien du tout. Et quand on découvre et qu'on creuse, oulala, le mauvais jeu de mots, on est effaré par l'ampleur des choses, par les motivations politiques, par la façon dont ça s'est fait, hein, et puis par la chape de silence qu'il y a là-dessus, et aussi également par la douleur presque un siècle après que les gens à qui on a transmis ces affaires portent sur eux. Enfin, on a interrogé une vieille grand-mère qui est dans le film, mais on en a vu d'autres qui sont touchés comme si ça s'était passé hier, quoi. Ça a été violent, comme moi dans ma région d'origine, l'Alsace-Lorraine, comme peuvent l'être les souvenirs des deux guerres mondiales.
Est-ce que c'était déjà prévu avant ton départ en Ukraine de parler de ce sujet ?
Alors, l'histoire du chapitre 4, c'est, j'avais dit à Anna, ma femme, je prends une très bonne caméra, je te suis, et on verra en fonction des personnages que tu vas rencontrer, les hasards des choses, voilà. Donc, il y a des tournages qui étaient prévus, comme avec sa mère, son cousin, et d'autres, où le hasard a joué son rôle à plein. Il était prévu qu'on aille voir cette grand-mère, mais on ne savait pas qu'il y avait un monument Holodomor là. C'est juste un événement rocambolesque qui nous a fait rester pendant une heure à une petite place en bas du village, qui a fait qu'à un moment donné, en restant une heure à un endroit, on a levé les yeux et on a vu un petit panneau où c'était marqué Holodomor. Heureusement que je lis le cyrillique, parce que du coup j'ai vu ça et j'ai dit à ma femme, mais t'as vu, il y a un panneau Holodomor là. Et elle l'a regardé, elle a dit, ah oui, je ne savais pas que dans le village de ma vieille amie il y avait un monument et les choses s'étaient passées. Donc on s'est regardé, on a dit, mais c'est extraordinaire, vous voulez parler de cette famine, mais pas de manière artificielle, justement.
Quel est donc cet événement rocambolesque qui t'a permis de découvrir ce panneau?
On a failli arrêter le film parce que ce jour-là, on a perdu la valise avec tout le matériel électrique, les micros, etc. Donc tout le matériel de la caméra dans le bus qui nous avait amené à ce village. Et il a fallu donc qu'on attende que le bus revienne pour récupérer la caméra. Et pendant ce temps-là, donc on a fait que ce qu'on pouvait faire à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on a regardé le paysage. Et en regardant le paysage, à un moment donné, je suis tombé donc sur le petit panneau où c'était marqué famine 1932-33. Et tout est parti de là et on a passé une journée lourde, chargée d'histoire et d'émotions, mais extrêmement extrêmement intéressante.
C'est ce qui s'appelle avoir de la chance dans son malheur.
Oui, et une partie des documentaires fonctionne comme ça, quoi. C'est pour ça que quand je suis parti en disant à Anna, écoute, on verra bien ce qui se passe au détour des gens que tu rencontres, je savais qu'il se passerait des choses, je savais pas quoi. Et ça a été un hasard ultra positif. Et moins c'est organisé, mieux c'est.
Quand tu as filmé le monument, est-ce que tu avais en tête ce que tu avais déjà tourné en Lorraine au camp de Bans-Saint-Jean? Parce que je trouve que le filmage, la façon dont tu filmes la forêt est vraiment très différente entre les deux chapitres.
Oui, le camp de Bans-Saint-Jean est différent parce que c'est un camp qui est organisé par justement des historiens amateurs depuis très très peu de temps. Et on l'a filmé avec des historiens qui voulaient absolument tout raconter de ce camp-là. Et on s'est dit, c'est un lieu qui doit garder une part de mystère. Donc on l'a aussi beaucoup filmé avec des sous-entendus visuels, c'est-à-dire on a filmé des traces, des choses, etc. etc. L'Holodomor, cette forêt-là, on l'a filmé différemment parce que la lumière est différente et ça peut paraître bizarre, mais les sols sont différents. C'est-à-dire qu'il y a des reliefs sur le sol de la forêt de ce village ukrainien qui sont des reliefs simplement dus aux gens qu'on a mis à cet endroit-là. C'est-à-dire, ça peut paraître bête, mais le sol du camp français a été égalisé. Tandis que le sol ukrainien est resté exactement le même depuis les années 33, c'est-à-dire qu'il y a des bosses qui correspondent simplement à des corps qu'on a mis là. Donc ça fait deux forêts qui ont des points communs, mais aussi de lourdes différences, quoi. En plus, on a filmé le parcours de deux générations, même trois, puisqu'il y a la grand-mère, ma femme et le petit Roman qui avait 11 mois. Donc on suivait un trio, alors qu'au Bans-Saint-Jean, on a filmé une rencontre entre une handballeuse ukrainienne et un historien lorrain, un tout petit peu différent, quoi. Mais globalement, très bien de l'avoir remarqué, il y a une espèce de boucle entre deux terrains qui ont des similitudes. Ouais.
Juste pour terminer, quelles sont les possibilités de diffusion pour un film pareil qui dure 90 minutes ?
Alors, ce film, il a été fait dans plusieurs objectifs. Bon, moi, à titre personnel, comme réalisateur, l'objectif le plus important et celui qui m'intéresse le plus, c'est de faire des projections, des festivals ou des projections particulières. Et après, avoir des débats avec les gens, etc. Ça, c'est ce que je fais depuis une vingtaine d'années précédemment avec mes films sur le milieu ouvrier en Lorraine et maintenant avec cette problématique plus pays de l'Est, on dira. Évidemment aussi, le fait de vendre les DVD pour ce qui concerne Carnet ukrainien, ça se fait depuis le mois de décembre parce qu'il y a des gens qui achètent ces films pour les voir et c'est aussi quelque part aussi des objets. La production, bien entendu, aimerait qu'une télé ou des télévisions achètent à cette genre de films. On peut ratisser un peu plus large, évidemment, à la télévision que dans des projections ou des festivals où les gens viennent voir une chose particulière. Tout ça est tout à fait récent, donc on est en train de travailler là-dessus, aussi bien en Suisse, en France qu'en Ukraine. Et on sait qu'en Ukraine, une ou deux télévisions seraient intéressées.
Mais par contre, comme tu l'as signalé, donc actuellement, il existe un DVD. On peut donc l'acheter.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de vrai lieu de vente. Il faut m'écrire, moi.
Et on t'écrit où ?
On m'écrit à egra2f@worldcom.ch.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci à toi.
Stéphane Venanzi pour parler de Carnet ukrainien, film d'Emmanuel Graff.
Radio Django, 18-19h.
Nous avons le plaisir de proposer une nouvelle série des rubriques cataacoustiques de Daniel Suri. Après celle retransmise l'été dernier, c'est des billets d'humeur, d'humour, tantôt grinçant, tantôt moqueur, qu'on retrouve régulièrement également dans l'événement syndical, l'hebdomadaire du syndicat UNIA. 5 nouvelles rubriques pour autant de grands directs de Radio Django dans lesquels nous allons retrouver les personnages chers à Daniel, c'est-à-dire Rudy Sorer, le secrétaire général de la Manip, la mission d'action novatrice de l'industrie privée. Nous retrouverons également Alain-Pierre Rocha, dit AP2P, Christos Konstantinopoulos, dit CK, le chef du marketing, et j'en passe, et des plus belles. Aujourd'hui, dans Fun Fun, les petites marionnettes, nous allons suivre les élans pour aider les employés d'une entreprise à mieux supporter les tâches répétitives et barbantes, tout ça, bien entendu, dans le but d'augmenter la productivité de l'entreprise.
La chronique cataacoustique de Daniel Suri.
Ainsi, fun, fun, fun, les petites marionnettes.
Cela faisait longtemps que Hans im Obersteg, DHIO n'avait pas réalisé de supervision externe pour le compte de la MANIP, la mission d'action novatrice de l'industrie privée. Cette fois, il s'agissait de tirer le bilan d'une expérience d'application de la Fun Theory dans une entreprise. Fun, vous voyez de quoi il s'agit. En gros, oui, dans la mesure où tout parent d'un adolescent normalement constitué a déjà entendu la justification classique « c'est pour le fun » répétée au moins 1000 fois à propos de passablement de choses n'ayant rien de commun entre elles. Le fun, donc le plaisir, l'amusement, a aussi trouvé sa place dans le management. Rayon « motivation des employés ». Pour les aider à supporter des tâches répétitives et chiantes, réduire le taux de renouvellement du personnel, consolider l'esprit d'équipe, etc., etc. Tout ça dans le but d'augmenter la productivité. On est dans l'entreprise ici, bon sang de bois, pas chez les petites sœurs des pauvres. Démonstration. Prenez une poubelle dans un parc public autour de laquelle se répandent papiers gras et déchets. Le but est d'amener les promeneurs à mettre les déchets dans la poubelle. Le fun consiste à installer un petit système électronique, capteur, haut-parleur, qui déclenche un petit tintouin quand on jette un objet dans la poubelle. Génial. Fun, non. Et figurez-vous que grâce à cela, la poubelle qui ne recueillait habituellement que 42 kg de déchets par jour en a récolté 71 kg. Quel appréciable gain de productivité. Pour la prochaine fois, je vous laisse toutefois résoudre le problème suivant. Sachant que l'expérience se passe en Suède et que le petit tintouin déclenché par le geste requis ressemble furieusement au bruit du bombardement piqué d'un Stuka, explosion finale comprise, quelle explication donnez-vous à cette situation inédite? Réponse possible: A. Les Suédois, peuple pacifique, n'ont jamais vu de film de guerre. B. Neutre en 39-45, la Suède exprime ainsi inconsciemment son désir d'être bombardée un jour, elle aussi. C'est la révolution sexuelle et la solitude aidant, le peuple suédois est devenu complètement sourd. Question subsidiaire pour départager les vainqueurs, combien de temps durera l'effet petit tintouin? Nonobstant cette inquiétante interrogation, l'utilisation du fun en entreprise a trouvé sinon un emploi incontesté, du moins des appellations diverses, et aussi contrôlée que celle de la bibine. Gamification, ludification, jeu agile, jeu sérieux, fun walk ou see use plays, par exemple. Quelles sont les activités qui pourraient rentrer dans ce cadre ludico-entrepreneurial? Au moins 5 types, d'après la science managériale. Non, on ne rit pas au fond. Des événements sociaux, pique-niques, sorties festives, etc. Alléchant, non? Des activités renforçant l'esprit d'équipe, équipe sportive soutenue par l'entreprise, tacler méchamment son chef de bureau. Des compétitions de productivité, bof, ça c'est banal. Des cérémonies publiques de fin des travaux avec désignation des employés du mois, ça sent son Brejnev revu par Poutine. Des célébrations de dates personnelles importantes comme les anniversaires, les mariages et les années de service, appelée grossièrement « balle des faux culs » par certains qui n'ont rien pigé au fun. Dans le cas présent, HIO allait devoir vérifier que l'entreprise en question ne s'était pas pris les pieds dans le tapis comme d'autres qui s'étaient jetés sur les festivités fabriquées de toutes pièces, s'apercevant un peu tard que ce genre de bonheur sur commande n'était pas partagé par tout le monde. Ça, c'est bien les salariés. Leur direction se casse le fondement pour leur organiser un bal nouvel an avec cotillon, serpentin, bombe de table, orchestre pain fromage et à moitié tire la tronche. L'autre moitié ne fait pas mieux puisque le jour suivant, le chiffre d'affaires dégringole pour cause de gueule de bois et prise répétée d'alcalcézer. À vous dégoûter du management ludique. Fun.
Fun, fun, les petites marionnettes, c'est le nom de cette rubrique catacoustique signée Daniel Suri, à retrouver sur notre site django.fm.